Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Vous écoutez les programmes de Studio Tamani sur 73 radios et 3 télévisions à travers le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse au cours duquel nous parlerons de grogne sociale, de la présence des forces étrangères ainsi que de la reprise et du report du procès Sanogo. Nous parlerons également de corruption avec le rapport de Locley Ibeka face à la presse. Les journalistes invités donneront leur point de vue sur ce qui a été dit. Le forum de la presse reçoit ce soir Badou Escobar du journal Le Carrefour, Oumar Barou Sidibé du groupe Renouveau et Mamoudou Bokoum au téléphone de la radio Kaoural de Mopti. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Nous parlerons d'abord de la grogne sociale qui ne faiblit pas, la grève des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016 qui se poursuit. La nouvelle étape devrait prendre fin aujourd'hui et une prochaine est annoncée la semaine sur prochaine à partir du 21 janvier. Badou Escobar, que pensez-vous de cette grogne sociale à travers le pays?
Bon, moi je pense que cette grogne sociale est la conséquence du comportement même de l'État, parce que l'État n'arrive pas à s'assumer, l'État n'arrive pas à honorer, à respecter ses engagements. Vous vous rappelez sans doute de ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, pratiquement, les anciens ont passé plus de 6 mois dehors, ils ont mis les clés sous les paillassons. Il a fallu des tractations, des négociations, l'implication de l'ensemble des acteurs de l'école pour que les anciens puissent revenir à de meilleurs sentiments avec des promesses. Apparemment, ce sont ces promesses qui n'ont pas été tenues. Et au-delà de cela, il y a un autre facteur aussi qui a entraîné des grincements dedans chez les enseignants, c'est au niveau de l'INTM. Apparemment, il y a eu une hausse de la grille salariale des travailleurs de l'INTM. Le secrétaire général de l'INTM est en train de lutter pour que le SNEC puisse bénéficier des meilleurs avantages parce que le SNEC est affilié à l'INTM. Maintenant, c'est ce problème de statut particulier qui a compliqué la situation. Donc, et par rapport à tous ces facteurs, les anciens disent que non, il faut qu'ils aussi ils aient les mêmes avantages que les travailleurs de l'INTM ou les structures d'enseignants qui sont affiliés à l'INTM. Donc c'est ça le fond du problème. Et au-delà de cela, il y a au niveau de l'hôpital du Point G également, il y a des problèmes. Et les travailleurs sont en grève depuis, ont décrété une grève de 72 heures, je ne sais pas si ça continue. Ils se plaignent de la mauvaise gestion de l'établissement. Et ils se plaignent également du plateau technique qui n'est pas en état vraiment de pouvoir satisfaire les malades.
Grève des enseignants également au niveau du CHU Point-G. Que pensez-vous de ces différents arrêts de travail?
Merci, Monsieur Touré. Avant de répondre à cette question, nous sommes quand même réveillés aujourd'hui avec une très mauvaise nouvelle. Que la disparition du ministre de l'Éducation nationale, docteur Timoré Tulenta. Et je voudrais profiter de votre micro pour, en tout cas, adresser toutes nos compassions à la famille et pleurer. Cela dit, j'espère que les auditeurs comprendront quand même que nous ne sommes pas en verve aujourd'hui, en tout cas pour répondre à votre question. Et sans tomber dans les redites, Badou l'a rappelé tout à l'heure, en tout cas c'est cette grogne quand même, c'est la suite logique des promesses non tenues par, en tout cas, le gouvernement. Et le gouvernement pensait qu'au sortir, si vous voulez, du dialogue national inclusif, qu'il allait connaître un moment de répit, parce que en tout cas, au cours de ce dialogue, il a été clairement dit, si vous voulez, les partenaires sociaux du gouvernement ont été invités à observer une trêve sociale. Donc le gouvernement pensait qu'il allait profiter de ce moment, de cet appel-là, pour en tout cas contenir certaines revendications, mais peine perdue pour le gouvernement. Je pense qu'au sorti du déni, on a vu quand même les enseignants déposer leur préavis. On a vu au niveau de l'hôpital Gabriel Touré que, en tout cas, la grogne est en effervescence, malgré en tout cas certaines interventions du ministre en charge de la Santé qui a permis de contenir en tout cas cette grogne au niveau du CHU, même si la tension n'est pas totalement en tout cas écarté. On sait que ça couvre au niveau du Gabriel, de l'hôpital Gabriel Touré, mais au niveau du syndicat de l'enseignant, je pense qu'en les écoutant, on sent que c'est un syndicat déterminé à aller jusqu'au bout, parce qu'ils estiment qu'il y a une sorte de décalage, surtout qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Pendant qu'on appelle les syndicats à terre, en tout cas leurs revendications, pendant un moment, on sent qu'il y a le gouvernement qui vit dans l'opulence, dans l'extravagance. Le train de vie de l'État quand même n'a pas connu en tout cas cette trêve. Tant qu'il y a ces décalages, je pense que la grogne en tout cas va continuer. C'est ma lecture en tout cas pour le moment par rapport à ce sujet.
D'accord. Boukoum, est-ce que cette grogne sociale, elle est également sentie dans la région de Mopti?
Tout à fait. Elle est très perceptible parce que d'abord, toutes les écoles publiques sont fermées ici. Dernière nouvelle, l'ensemble des syndicats aussi s'apprêtent à déposer un autre préavis de grève. Donc, ça veut dire que c'est parti pour ces grèves indéterminées. Quand même, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas accuser les enseignants comme ça, parce que dans leurs revendications, ils demandent que l'application des textes qui ont été signés, les accords qui ont été signés, les appliquer simplement. Il n'y a pas eu de rajout. Donc, est-ce que le gouvernement est de bonne foi pour les mettre en œuvre? Si le gouvernement veut éviter les grèves, c'est comme ça, en tout cas, qu'il doit agir. Mais dans le cas échéant, ce qui est sûr à Mopti, les enseignants sont très déterminés à poursuivre, à continuer avec ce bras de fer jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause, c'est-à-dire mettre en application au moins, ne serait-ce que les accords qu'ils ont obtenus avec le gouvernement lors des négociations dernières. Donc, vraiment, c'est une problématique qui est là, qui est très dangereuse, pas dangereuse pour nos enfants, mais quand même, il faut essayer de mesurer les pour et les contre que les populations ont par rapport à cette grève. D'autres accusent les enseignants et d'autres c'est le gouvernement. En tout cas, la question reste posée, mais les syndicats sont très déterminés, en tout cas au niveau de la région de Mopti, la coordination des syndicats est déterminée à aller jusqu'au bout.
Beaucoup estiment que les enseignants sont dans leur droit de demander l'application de cette loi, mais aujourd'hui, certains également estiment que les enseignants doivent aussi pleinement jouer leur rôle, notamment dans le domaine de l'enseignement. Qu'en est-il à Mopti?
Bon, comme on le dit, le ventre creux n'a point d'oreille. Les enseignants, c'est vrai, leur rôle, c'est d'enseigner. Mais ils ont opté pour la profession et ils doivent être payés par rapport à ça. On a frôlé l'année blanche l'année dernière. Heureusement que l'année a été sauvée. Et de quelle façon? Il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on doit accepter que la même situation revienne encore? Parce que tout simplement, les accords obtenus n'ont pas été mis en œuvre. À qui la faute? Il faut qu'on se pose cette question. Il faut situer la responsabilité. Les enseignants n'ont pas refusé d'aller, mais si on les met dans leurs droits, ils n'ont pas le choix. Ils ont opté pour ça, ils vont le faire. Loin de les défendre, parce qu'on se fie à ce qui a été fait. On se fie aux accords signés, on se fie aux engagements pris par les uns et les autres. Donc, si chacun respectait ses engagements, je pense que chacun devrait quand même pouvoir jouer son rôle qui lui a été confié. Les enseignants, ils vont aller à l'école, ils n'ont pas le choix. Et le gouvernement aussi va s'acquitter de son devoir, c'est de mettre les enseignants dans leurs conditions, en tout cas, ne serait-ce que les accords qui ont été obtenus et qu'on les mette en œuvre. Vraiment, il y a cette question. Les enseignants, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils voient nos enfants qui sont en train de souffrir ici, mais on ne peut pas les imposer de faire quelque chose dont ils ne sont pas tout à fait responsables. Ils n'ont pas refusé d'aller, ils ont demandé de mettre en œuvre. Donc, il faut vraiment tuer la responsabilité à tous les niveaux. En tout cas, moi, je ne prends pas les enseignants pour responsables qu'ils ont démissionné, loin s'en faut, mais les enseignants, ils sont vraiment dans leurs droits, sincèrement, à ce qui me concerne.
Omar Baroussi Dibé, le gouvernement estime ne pas avoir les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Mais pourquoi prendre des engagements si les ressources ne sont pas disponibles?
Justement, c'est ça le paradoxe en la matière. Ces engagements qui ont été pris ne l'ont pas été en 2010. C'est sachant bien que le Mali était en guerre, que le gouvernement s'est engagé librement devant les enseignants. Mmh. Le paradoxe est aujourd'hui, quand vous écoutez le président de la République, en évoquant cette question, il dit que lui-même, il est enseignant, donc il partage les peines, si vous voulez, les conditions que les enseignants vivent. Et également, il annonce que le gouvernement n'a pas de moyens, que toutes les ressources sont consenties au niveau de l'armée. 27% du budget, est consenti à l'équipement, en tout cas à l'armée malienne. Mais et le reste du budget, où est-ce qu'il va? C'est ça toute la problématique. Aujourd'hui, c'est parce que moi, j'estime aujourd'hui que, très franchement, la question de l'éducation n'est pas pris à bras le corps par le gouvernement. Parce que, généralement, leurs enfants ne sont pas dans le système éducatif malien. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas concerné par un dossier vraiment de le traiter. C'est vraiment tout le paradoxe en réalité. Quand vous regardez l'élite malienne aujourd'hui, leurs enfants, ils sont à l'extérieur. Si les papous qui sont restés ici sont au niveau des libertés, sont au niveau des écoles qui échappent au système éducatif malien. Moi, je pense qu'il y a ce côté d'irresponsabilité qui rentre en ligne de compte. Les enseignants, ils sont dans leurs droits. De revendiquer. Ils n'ont pas demandé au gouvernement de venir boire la mer pour eux. Ils n'ont pas demandé au gouvernement d'aller chasser la lune ou le ciel ou d'aller chercher le ciel pour eux. Ils ont simplement demandé d'appliquer les engagements qu'ils ont librement consentis devant les syndicats il y a seulement une année.
Les cours sont observés dans, on va dire, certaines écoles privées. Cette différence entre les écoles privées et les écoles publiques, ce retard, est-il rattrapable?
Ce retard
Peut-on rattraper ce retard?
Bon, on peut rattraper ce retard à condition que la grève puisse cesser. Et mon confrère l'a dit, il faut que l'État respecte sa part du contrat structure sensu. Vous ne pouvez pas signer des accords avec un syndicat d'enseignants, des intellectuels, et dire que vous n'allez pas appliquer ce que vous avez signé. C'est anormal. Lors de la présentation de vœux, Monsieur Jean Zerbo, qui est le cardinal de Bamako, est revenu sur ça. Il a rappelé au président de la République que le problème, c'est surtout l'État qui ne respecte pas ses engagements. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et le problème scolaire a toujours été résolu à l'emporte-pièce. Il est temps qu'on arrête avec ça. L'année dernière, c'est à partir du mois de mai que les anciens et les élèves ont repris le chemin de l'école. Et c'est le même scénario qui est en train de se reproduire cette année. Pour éviter cela, moi, je pense que l'ensemble des partenaires de l'école doivent se retrouver, s'asseoir et faire pression sur l'État pour que l'État respecte ses engagements. C'est vrai, nous sommes en guerre. C'est vrai, l'armée a besoin d'être mise dans le minimum de conditions. Parce que le président l'a dit, 27% du budget est consacré à la défense. Ce qui est normal, parce que pour aller à l'école aussi, il faut être en sécurité. Mais ce qui risque d'aggraver encore la situation, c'est le problème du nord, du centre. Au nord et au centre, les écoles sont fermées. S'il faut ajouter à ces écoles fermées la grève des anciens, je me dirais tout simplement que l'école malienne va vers sa perte. Chaque fois, les autorités disent sur les zones, il faut que le Mali soit un pays émergent. Pour qu'un pays soit un pays émergent, il faut qu'il y ait des ressources humaines. Et il faut que l'État pense à cela. C'est les intellectuels qui sont à la tête de ce pays-là. Qu'ils comprennent que le développement de tout pays dépend d'un système éducatif performant. Tout passe par l'éducation d'abord. L'éducation doit être au cœur du système après la défense. Parce que la sécurité va peut-être revenir dans quelques années. Mais si la sécurité revient et que les élèves ne sont pas à mesure vraiment de compétir au plan international, c'est extrêmement grave. Vous savez, nous sommes à l'aide de l'intégration. Donc des Togolais pourront venir travailler au Mali, des Béninois pourront venir travailler au Mali. Et les Maliens vont aller travailler ou s'ils n'ont pas le niveau. Finalement, nous serons assujettis par les autres pays qui sont membres de la CEDEAO et on se retrouvera. Parce qu'il y a plusieurs façons de coloniser un pays. Parce que s'il y a trop de Béninois, de Togolais qui viennent travailler chez nous et nous ne parvenons pas à être compétitifs sur le marché, ce serait une perte pour le Mali.
D'accord. Alors, Bokoum, quel avenir donc pour l'école malienne?
Vraiment, ça m'inquiète beaucoup personnellement, parce que quand on voit que des centaines d'écoles qui sont fermées dans la région de Mopti, au centre et au nord, quand on voit que c'est des milliers d'enfants qui sont laissés à leurs professeurs, quand on voit que ce sont les enseignants qui sortent tout le temps pour réclamer leurs droits, vraiment, je m'inquiète pour le système éducatif malien, je m'inquiète pour l'avenir de l'école malienne, parce que Si tu veux détruire un pays, ce n'est pas compliqué. Il faut détruire son éducation. Donc, comme le dit l'autre, donc ça veut dire qu'on est en train d'aller droit au mur si chacun ne joue pas franc jeu. Donc, il faut qu'on évite d'aller vers ça. Parce que, vraiment, l'avenir de l'école malienne m'inquiète personnellement, inquiète les parents d'élèves, inquiète tout le peuple malien. C'est vrai, on est en période de guerre. Il faut consacrer un budget pour vraiment équiper l'armée, pour former nos hommes qui veillent sur nous. Les hommes qui veillent sur nous, ils vont veiller sur quelle population, si la population est, entre parenthèses, pas totalement ignorante, mais n'est pas instruite. Et cette population, comment elle va prendre l'avenir du pays en main? Donc ça veut dire que non seulement l'école n'a pas vraiment un avenir radieux devant elle, en tout cas dans notre pays aujourd'hui, mais aussi on va faire face à des centaines de milliers d'enfants qui vont être la proie de recrutement par les terroristes. Parce que si tu n'as pas instruit, si tu n'as pas un niveau vraiment intellectuel un peu avancé, facilement tu devient la proie des recruteurs pour faire de toi un enfant soldat. En tout cas, nous, dans la région de Mopti et au centre du Mali en général et au nord, vraiment, les enfants risquent on ne le souhaite pas, hein, ils risquent vraiment d'être la proie facile aux recruteurs, la proie facile aux terroristes. Donc, il faut très rapidement pallier à cette situation si on veut vraiment avoir un pays émergent, si on veut vraiment avoir des dirigeants dans l'avenir pour ce beau pays.
Et Bokoum, c'est dans ce même contexte qu'on fait face à une polémique autour de la présence des forces étrangères dans le pays. Qu'en est-il à Mopti?
Ah oui, la semaine dernière a été très mouvementée dans le plateau d'Ogon. Je dis plateau d'Ogon parce que c'est les cercles Banyangara et Kourou qui ont vraiment fait le mouvement pour demander le départ de la MINUSMA. On se rappelle, il y a eu des marches contre la MINUSMA, il y a eu des pillages, etc. Et maintenant, c'est les populations de Banyangara et de Kourou qui se révoltent parce que ils se révoltent selon elles contre l'inertie, ce qu'ils ont appelé l'inertie de la MINUSMA. Parce que pour elles, la MINUSMA doit vraiment aider à combattre ce qu'ils ont appelé les ennemis. Bon, ça c'est leur version. Et la MINUSMA, quand on la rapproche, elle dit que son mandat n'est pas de vraiment combattre le terrorisme, mais d'aider à stabiliser le Mali. Donc il y a déficit de communication entre la MINUSMA, la population. Deuxièmement, la population aussi ne comprend pas, n'a pas compris un peu le mandat de la MINUSMA. Et quelque part, elle a raison, parce que on voit les éléments armés partout, des forces étrangères armées partout, mais les attaques ne cessent pas. La population, le citoyen lambda ne fait que penser à cela. Mais il faut que les uns et les autres puissent parler pour qu'on puisse se comprendre. Parce que on a risqué, on a frôlé le chaos la dernière fois dans le cercle de Banyangara entre les forces des Nations Unies et la population. Maintenant, la jeunesse qui est au devant de la chaîne, parce que c'est le conseil local quand même de Banyangara de la jeunesse de Banyangara qui est au devant de la chaîne, on a échangé avec eux. Leur version de fait, c'est que à chaque fois que la MINUSMA passe dans un village, il y a une attaque. Pour eux, la MINUSMA aurait quand même une main invisible. Bon, ça, c'est des pensées à eux. Je ne dirais pas que c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, il faut être raisonnable. Il faut échanger avec les gens. Il faut essayer de comprendre qui fait quoi. En tout cas, c'est vraiment très sérieux aujourd'hui si les autorités ne jouent pas le rôle d'arbitre entre ces deux partie entre la population et les forces étrangères. Il faut qu'il y ait une très grande communication pour que les gens puissent comprendre, il faut que les gens échangent, il faut aller à la rencontre des gens pour les faire comprendre le rôle des uns et des autres.
En tout cas, vous parlez de rôle d'arbitre, Bokoum. Le président de la République a appelé la population à ne pas se tromper d'ennemis. Est-ce que vous pensez que cet appel du président Ibrahim Boubacar Keïta a été entendu à Mopti?
cet appel est jugé de façon vraiment pas bien au sein de la population dans le plateau d'Ogon, parce que pour eux, pour elles plutôt, le président les a livrés à leur sort, parce que quand on dit que celui qui s'attaque aux forces étrangères est l'ennemi du pays, partout où il y a ces forces étrangères, il y a ce problème. Moi, je crois que c'est comme je l'ai dit, il y a un problème de communication. Au lieu de qualifier les uns d'une chose ou d'une autre, il faut essayer d'apaiser la situation, essayer de faire comprendre la population. C'est là où je parle du rôle d'Albert. C'est-à-dire expliquer clairement qui fait quoi et pourquoi X est là, Y est là. Je pense qu'avec ce dialogue qui manque, d'ailleurs le dialogue manque chez nous, c'est pourquoi on est dans ce problème.
D'accord.
Il faut qu'il y ait un dialogue et c'est seul l'État qui peut jouer cet arbitrage en expliquant à sa population et en expliquant vraiment aux nations, aux forces étrangères comment il faut s'y prendre. Parce que chaque localité a sa réalité.
Merci beaucoup, mais je reviens vers vous tout à l'heure. Alors, Badou Escoba, pensez-vous qu'aujourd'hui le rôle des forces étrangères présentes au Mali n'est pas bien compris par les Maliens?
Et arrêtons avec ce comportement belliqué qui veut qu'on accuse les forces internationales, qu'on demande leur départ. C'est vrai que c'est la France et ses alliés de l'OTAN qui ont ouvert la boîte à Pandore en éliminant le colonel Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que nous avons besoin de ces forces étrangères. Hier soir, la base militaire de Shinakoder a été attaquée en territoire nigérien, non loin de la frontière malienne. 31 soldats nigériens ont été tués. Il a fallu l'intervention des drones américains et il a fallu l'intervention des Mirage 2000 français qui sont venus à la verticale en 15 minutes et ont tiré une soixantaine de terroristes. Donc, impérativement, nous avons besoin d'eux. Moi, je pense qu'abandonner cette surenchère qui veut qu'on nous exigeons leur départ. Beaucoup sont à Bamako, ils critiquent les forces internationales, ils demandent leur départ, ceci, cela. Moi, je souhaite que la ministre mette en place un point aérien, qu'on les amène dans la vallée de la Matetaï, à Warit Flout, ou en Fleflé, ou en Tadinit, où il fait 45 degrés à l'ombre. Donc, quand ils vont passer la journée là-bas, quand le soleil va griller leur cerveau, quand ils vont retourner à Bamako, ils vont cesser de dire aux forces internationales de partir.
Mais les équipements et les moyens dont disposent ces forces étrangères ne peuvent-ils pas permettre d'éviter ces attaques au lieu de venir en sapeur-pompier après les attaques?
Si vous me demandez, peut-être l'aménagement a un rôle spécifique à jouer. Parce que apparemment, Barkhane est la force parallèle de l'aménagement. C'est Barkhane qui mène toutes les opérations d'envergure dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et Barkhane, ces derniers, est en train de faire son travail. Bien sûr, sous la pression de l'opinion publique. Si l'opinion publique doit se plaindre, l'opinion publique doit faire en sorte que Barkhane, MINUSMA et le G5 Sahel fassent leur travail et qu'ils s'associent à l'armée, aux forces des pays du Sahel pour neutraliser les terroristes. Mais de là à demander leur départ, je pense à aller trop loin. Le chef de le ministre de la Défense, lors de son interpellation à l'Assemblée nationale, il a dit qu'à Boulkessi, il n'y a même pas un bidon. C'est Barkhane qui a amené de l'eau et de la nourriture. Le président, lors de la présentation de vœux et revenu là-dessus, il dit que si Barkhane part aujourd'hui, qui va renseigner nos militaires maliens? Nous savons tous que nos militaires maliens n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face au terrorisme, parce que c'est des gens imprévisibles, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique, et c'est les renseignements qui importent. Ce qui s'est passé à Bayangara, c'est vrai, la population est triste, la population est mécontente, parce que les tueries continuent, mais cela ne doit pas nous pousser vraiment à exiger le départ des forces étrangères. Si ces forces étrangères quittent la région du Sahel, ça va encore compliquer la situation de mon point de vue. Et ménageons notre mentir, essayons de faire pression sur eux pour que vraiment ils puissent faire leur boulot et partir et que vraiment nous puissions nous retrouver et parler de choses sérieuses et entamer le développement de notre pays. Parce que notre pays est en train de souffrir de cette guerre contre le terrorisme.
D'accord, Omar Barrou Sidibé, est-ce que vous partagez ces analyses de...
Non, ce qui fait déjà la beauté de la démocratie, c'est l'expression plurielle, permettre à tout le monde d'exprimer son ressentiment. Je pense que je ne ferai pas un jugement sévère à ceux qui pensent que, comme Badou l'a fait, à ceux qui pensent que les forces Barkhane doivent déguerpir ou les forces étrangères doivent déguerpir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ce soulèvement de l'opinion nationale ou même l'opinion sous-régionale a eu des grands mérites. Le premier mérite, c'est d'avoir arraché nos gouvernants de leurs réserves, les amener à parler, à nous dire réellement la capacité réelle de notre armée. Aujourd'hui, le président de la République est sorti de sa réserve. Il a dit que notre armée, malgré les efforts financiers consentis, n'est pas aujourd'hui, l'armée n'est pas en mesure aujourd'hui, et en tout cas de satisfaire à ce que nous pensons qu'elle doit faire tout de suite, c'est-à-dire recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Parce qu'un camp qui n'a pas de fourrage, le président l'a rappelé, une armée qui est en manque d'eau, par exemple, des biens de subsistance.
Justement, est-ce normal que ce soit des forces étrangères qui donnent de l'eau aux forces nationales dans leur pays?
Mais justement, je parle des bienfaits déjà du soulèvement de l'opinion, de l'opinion par rapport à la question. Là, aujourd'hui, il y a une certaine opinion déjà qui est, depuis cette sortie-là, certaine opinion quand même est revenue sur la raison, à reconsidérer sa position par rapport au départ des forces étrangères. Sachant bien que si c'est le chef suprême de l'armée qui dit que notre armée n'est pas en capacité, en tout cas, d'approvisionner en tout cas, les troupes, en termes des biens de subsistance, là déjà, on ne peut pas être dans cet état-là et demander aux forces étrangères de partir. Je pense que le soulèvement de l'opinion a eu ce mérite-là. Le deuxième mérite, c'est d'avoir amené, en tout cas, les forces amies à reconsidérer leur position par rapport au Mali. Quand depuis la sortie de Salif Keïta, qui a été suivie par, en tout cas, une certaine opinion, on a senti que les autorités françaises ont reconsidéré leur position. On a vu quand même l'annulation de la convocation de Pau. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu telle ou telle attaque au Niger, non. C'est parce que l'opinion a perçu cette invitation comme une sorte de condescendance. Donc, la force Barkhane a reconsidéré et elle a même commencé à communiquer, à dire réellement ce qu'il est en train de faire par rapport, en tout cas en termes d'appui à notre armée. On a vu la MINUSMA aujourd'hui qui a reconsidéré considérablement sa position par rapport au Mali. On a vu même ceux qui étaient en belligérance. Les gens de la CEMA, quand vous regardez leur discours, depuis le soulèvement de l'opinion, on sent que les choses quand même bougent de façon positive. On a même en train, dans les coulisses, d'entendre qu'il y a un délai pour que l'armée entre à Kidal. Là déjà, moi je pense que ces soulèvements-là, il ne faut pas forcément les blâmer. Non seulement ça, en tout cas, peut-être que le cadre dans lequel ils sont en train de le faire peut être jugé d'une ou autre manière par certaines, mais je pense que, en tout cas, ça porte des germes, en tout cas, de vertus très très positives, en tout cas pour le retour de l'armée à Kidal surtout. Voilà.
Bokoum, est-ce que vous pensez que sur le terrain là-bas, les choses commencent à changer?
Bon, les choses commencent à. Nous on n'a pas Barkhane au centre. On a que la MINUSMA. Maintenant, la crainte des populations, ils réclament aussi à ce que l'aménagement devrait faire des patrouilles à l'intérieur des différents cercles, qu'elles soient accompagnées des forces étrangères. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est permis dans leur mandat de patrouiller avec les FAMA? La question reste posée. Je crois que c'est possible, mais ça fait partie des revendications. Mais la situation a un peu changé vraiment dans le delta intérieur du Niger, c'est-à-dire derrière les fleuves, malgré qu'il y a eu une attaque hier à Saba, à quelques kilomètres de Mopti, contre un point de gendarmes. Mais de façon générale, les conflits intercommunautaires qui vraiment avaient pris de l'ampleur dans le delta ont vraiment beaucoup diminué, parce que les gens sont partis faire la maçonnerie, tout le monde vague à ses affaires. Mais la partie la plus craignante aujourd'hui, c'est le plateau de Gon. C'est à partir dans le Sénon où les gens, les uns et les autres, ont refusé de dialoguer. Donc, on assiste vraiment à des attaques continuelles. On assiste au vol de bétail. On assiste à l'incendie des greniers. De tous les côtés, je crois que la chose est en train de sortir des conflits intercommunautaires pour devenir du banditisme. Imagine si des groupes armés qui ramassent des bétails ou des oiseaux qui prennent des bétails pour leur propre compte, pour ils retirent ça aux bergers ou quelques bergers qui prennent des 2 pour amener. Donc ça veut dire que ce n'est plus le conflit intercommunautaire, c'est devenu du banditisme. Il faut que les gens comprennent ça aujourd'hui dans la région de Mopti, surtout à partir de Somodougou, Soufroula et aller jusque dans le Seno profond là-bas. C'est exact qu'on voit. On ne peut pas dire que la situation est calme. Et tout cela se passe au vu aussi de tout le monde. Chacun de son côté, s'il a eu le dessus sur une partie, il amène tous les biens, tous les détails, les céréales, etc. Donc, c'est devenu du banditisme maintenant. Ce n'est pas les milices, ceux qui se disent milices d'autodéfense, que ce soit des deux côtés. Réellement, est-ce qu'elles sont en train de veiller sur la population? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les milices sont en train de se profiter de biens qu'ils trouvent dans les butins de guerre entre parenthèses. Parce que ce n'est pas la population qui... Et puis c'est des deux côtés, hein. Elles ne sont pas en train de veiller sur la population, mais les différentes milices sont en train de chercher du bien, sont en train de chercher de l'argent. Donc c'est devenu un commerce maintenant, c'est devenu une zone d'affaires pour les milices d'autodéfense. Donc là aussi, j'interpelle l'État pour que l'État puisse prendre sa responsabilité dans cette zone, pour qu'on puisse connaître la calme connue dans le Delta aujourd'hui au niveau du Sénat aussi.
D'accord. Vous avez parlé d'efforts financiers consentis, soulignés par le président de la République. Alors, si malgré ces efforts financiers, l'armée n'a aujourd'hui pas les moyens nécessaires pour faire face à la situation, où vont ces ressources?
Justement, c'est ça toute la question. Je ne vous apprends rien, vous êtes un journaliste. Les scandales à répétition par rapport aux équipements militaires, les avions cloués au sol, peut-être sont passés par là. Là, ça peut expliquer la situation. L'armée, c'est la grande miette, mais quand vous sortez aujourd'hui, vous causez avec, en tout cas, les subalternes de l'armée, les soldats et les sergents, ils vont dire ce qu'ils vont vous dire. Je pense qu'on n'est pas là aujourd'hui pour étaler certains dada de l'armée ici sur la place publique, mais on sait aujourd'hui que l'armée aussi n'échappe pas à la grande corruption qui gangrène toute la société malienne. Je m'en tiens à ça.
Et c'est dans ce contexte également que le rapport de l'OCLE est également publié. Quelle analyse faites-vous
de ce document? Avant de rebondir sur le rapport de l'OCLE, j'ai voulu rappeler une seule chose. Mm-hmm. Vous savez, aujourd'hui, c'est la MINUSMA qui sert de cordon ombilical entre le Nord et le Sud. Parce que pour aller à Gao aujourd'hui, il faut passer par le Burkina et le Niger. Bon, la MINUSMA est en train de faciliter les choses pour nous qui venons du Nord, parce que nous pouvons emprunter leur avion pour aller à Gao. Donc c'est pour dire que s'il y a un semblant d'unité nationale, c'est en partie aussi dû à la présence de la MINUSMA. Et je vais rebondir sur votre question par rapport à l'OCLE. Effectivement, Ounigunda a animé une conférence de presse l'autre jour pour parler de la corruption. Il a cité le nom d'un cadre de la sécurité sociale qui se retrouve avec plus de 900 millions de francs CFA, avec plus de 17 maisons, un inspecteur des finances qui s'est tapé plus d'un milliard, un autre inspecteur des finances qui s'est tapé plus d'un milliard. C'est des chiffres qui font simplement froid dans le dos. Mais ce que j'aimerais rappeler à l'État, il y a plusieurs structures de contrôle. Avant le clé, il y a eu le vérificateur général, la CASCA, le contrôle général d'État. Mais où étaient ces structures quand ces personnes se mettaient à se sucrer sur le dos du contribuable malien? Donc moi, je dirais tout simplement que c'est la faute à l'État. C'est l'État qui n'a pas pris ses responsabilités à temps. Comment en est-on arrivé là? Moi, ces gens ont eu le temps de détourner ces milliards de francs CFA. C'est parce qu'on les a donné le temps de bouffer. Votre salaire est connu à Studio Tamani, votre prime est connu, vos indemnités sont connues. Si on vous voit dans une bolide, par exemple, on doit immédiatement enquêter pour savoir quelle est l'origine de l'argent de la bolide. Si c'est le blanchiment d'argent, parce que vous êtes le comptable de Studio Tamani, vous êtes en train de grignoter.
Vous êtes commerçant également. Alors, donc, aujourd'hui, oui, sur 998 personnes qui ont déclaré leur bien, le rapport de l'OCLE estime qu'il y a 3 personnes qui sont soupçonnées d'avoir volé des deniers publics. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que sur 3 sur 998 fonctionnaires, que le rapport est, on va dire, conséquent?
Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous, on connaît les vrais vampires. Les 3 là, ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Les vrais voleurs sont là, les vrais voleurs sont connus. Les vampires sont là, ils sont connus de tous. Moi, je pense qu'on cesse de faire ce jeu de chaises musicales, présenter 3 personnes pour dire qu'ils ont ceci, ils ont cela. 998 fonctionnaires déclarent leur bien. Or, Moussa Sinko et Mamoudou Sensi Koulibaly a dit une fois qu'il y a plus de 1600 fonctionnaires corrompus et que bientôt la liste de ces 1600 fonctionnaires corrompus sera publiée. Bon, ça n'a pas s'il n'a pas continué sa lutte. Mais ce qui est sûr et certain, il n'a pas menti, il a parlé en connaissance de cause. C'est un opérateur économique avisé. Il connaît le rouage de l'administration du Mali. Les trois personnes qu'on a incriminées, moi je pense que ça c'est très insuffisant. Je dirais plutôt que ça c'est purement de la propagande. Si réellement ils veulent nous prouver qu'ils sont en train de lutter contre la corruption, on doit enquêter sur l'ensemble des fonctionnaires du Mali. Et surtout les fonctionnaires qui gèrent les services d'assiette. C'est là le fond du problème. Hier, ce matin, j'ai lu dans l'Indépendant, il y a un ministre qui a un immeuble d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA, sans compter le nombre de parcelles qu'il a. Donc, dès que des informations comme ça sortent, on doit tout simplement dire à ce ministre de démissionner, de se mettre à la disposition de la justice, qu'on ouvre des enquêtes pour savoir la provenance de cette fortune.
D'accord. Bokoum Amopti, comment la population voit-elle cette lutte contre la corruption qui est engagée? Est-ce que c'est des efforts qui sont applaudis ou qui ne sont pas bien perçus par la population?
Bon, le débat se poursuit, entre les citoyens, mais en tout cas, chacun juge de sa manière. Les uns pensent que c'est vraiment une bonne chose parce que rarement on fait des déclarations comme ça, mais d'autres pensent que vraiment c'est de la poudre aux yeux. En tout cas, pour ce qui me concerne personnellement, c'est le début de lutte, mais près de 1000 fonctionnaires, 990, qui sont ces fonctionnaires? Ils relèvent de quels services? Quels sont qu'est-ce qui a été conseillé pour qu'ils gèrent? Est-ce que c'est des enseignants? Bon, on ne sait pas. Ou bien est-ce que c'est des ministres ou c'est des diplômes? On ne sait pas. De toute façon, quelqu'un l'a rappelé, il y a assez de services de lutte contre la corruption. Quels qu'en soient les résultats qu'ils obtiennent, tant qu'il n'y a pas eu de répression, il n'y a pas eu d'emprisonnement, la justice ne réprimande pas ces auteurs-là, on va continuer à publier des rapports, on va continuer à inculper les gens et ces mêmes gens vont faire quelques jours, ils vont séjourner quelques jours, quelques semaines dans les prisons et ils ressortent avec les mêmes moyens. Non seulement ils ne restituent pas, mais aussi ils vont être vraiment blanchis et se voir confier d'autres postes de responsabilité et c'est le même scénario qui va reprendre. Donc à quoi sert une multitude de services de lutte contre la corruption et que le résultat n'est pas perceptible? Imaginez, c'est de 2017 à 2018 ce rapport-là, combien de fonctionnaires sont aujourd'hui, on n'a rien contre ce que les gens gagnent, ce n'est pas ce qu'ils vont, ils vont penser que nous on est faux, non, mais c'est le dernier public, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour le citoyen qui vit dans les fins fonds de Sofara ou en tout cas de Kankélé ou de Djaba. Donc c'est pour nous. Si quelqu'un se permet à lui seul de bouffer tout ça, le dernier public, donc on a le droit de quand même réclamer justice. Donc quel qu'en soit le nombre de ces services de lutte contre la corruption, tant qu'il n'y a pas eu la répression, tant qu'il n'y a pas eu vraiment de sanctions très sévères, ça va continuer. Vraiment, c'est un début, il faut l'applaudir, c'est un début, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait des boucs émissaires dans cette histoire-là. Il faut que
les choses changent, c'est ce que vous voulez dire.
Il faut que chacun soit contrôlé.
Oumar Baroussidibé, est-ce que vous pensez que ce rapport de l'OCLE va changer quelque chose?
Okay, j'ai la faiblesse de croire qu'on doit encourager en tout cas cette dynamique, parce qu'il a fallu à un seul homme de faire un petit pas sur la planète Mars pour que la science explose. Moi, je pense que ce n'est pas le nombre qui compte en la matière. Je pense, trois personnes auditées, on découvre 4 milliards de nos maigres francs qui s'étaient
évoqués. 3 sur 998.
3 sur 900, ce n'est pas forcément le nombre, mais la dynamique. Je pense que le ministre ne cesse de le rappeler. Leur lutte ne doit pas être comme un feu de paille, quoi. Un feu de paille. Et puis, ça doit créer un effet domino. Vous allez voir aujourd'hui, en tout cas, ceux qui étaient considérés comme les grands barons de certains états-majors, vous allez voir qu'il y a la peur au ventre aujourd'hui. Tout le monde a peur. Tout le monde a changé, en tout cas, de comportement, parce que sachant bien qu'on peut se voir un jour épinglé par ces services-là. 900 sur 3, peut-être ça peut paraître minime pour certains. Moi, je pense que c'est une dynamique qui est enclenchée. C'est un début. Il faut vraiment l'encourager et l'entretenir afin que notre pays quand même puissent vraiment se soustraire de cette endémie qui est la corruption, qui est vraiment généralisée. Il a dit, le gouvernement, on ne peut pas trop en vouloir au gouvernement. On sait que le gouvernement, c'est l'élite, ils entretiennent, c'est une pratique, c'est un système qui est là, qui est entretenu par les opérateurs économiques, soutenus par des hommes politiques, par les états-majors des partis, même par certaines sociétés civiles. On sait que c'est un système qui est là. Je pense que la dynamique, il faut vraiment l'encourager. Un ministre qui est appelé à aller justifier un immeuble à la CI 2000, là, ça en dit long déjà sur, en tout cas, les degrés d'implication même de notre
élite politique. D'accord. Et le temps fait défaut. On va aborder le quatrième thème de ce forum de la presse. Rapport, le procès de Amadou Ayassane Ogo, est-ce que vous pensez qu'il aura finalement lieu?
Mais bien sûr, parce que il y a le procès. Pourquoi le procès a été, en tout cas, le procès programmé a été reporté? Parce que le ministre, le Mali, si vous voulez, le Sahel est invité à se rendre à Pau, en tout cas pour parler, pour clarifier leur position par rapport à la présence ou non qui fait débat ici de la présence des forces Barkhane. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est vraiment réel, qui doit être vidé d'abord avant toute autre chose. Pour parler de procès, il faut parler d'abord de sécurité. Il faut que le pays soit sécurisé. Il faut que, en tout cas, l'armée recouvre, en tout cas, l'intégrité de notre...
Mais c'est le président de la République qui doit se rendre à Pau.
Oui,
la justice peut faire son travail.
Mais le ministre de la... il se trouve que le ministre de la Défense qui doit impérativement éclairer la vision du président de la République à Pau est convoqué, doit quand même en tout cas accompagner le président de la République à Pau. Je pense que le ministre de la... l'actuel ministre de la Défense, le général Dairou, à l'époque des faits, était le chef d'état-major général des armées. Donc, du coup, tout ce qui se passe au niveau de l'armée, je pense qu'il est le premier interpellé. Ce n'est pas forcément le général Amadou Ayassane Ogo, mais il se trouve que c'était lui le chef d'état-major général des armées. Quand vous écoutez le degré d'implication des uns et des autres, on pense qu'on se rend compte que Dairou Dembélé est interpellé pour complicité d'homicide et machin. Je pense qu'à ce niveau, cette complicité est expliquée par certains juristes qu'il aurait en tout cas dissimulé, si vous voulez mettre les noms des personnes, des bureaux rouges qui ont été découverts à Djo. Ok, donc...
D'accord. Et donc, il nous reste maintenant 3 minutes, dernier tour de table, pour parler de cette intervention du président Ibrahim Boubacar Keïta face à la presse. La presse a demandé une amélioration de ses conditions de vie, de travail, notamment à travers l'aide de la presse. Est-ce que vous pensez également qu'aujourd'hui, la presse elle-même également doit contribuer à l'amélioration de ses contenus?
Oui, la presse doit faire en sorte que les journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions, qu'il y ait une amélioration du niveau. Parce que le président de la République, s'il n'avait pas lui-même parlé, j'allais dire que les gens sont en train de le calomnier, mais c'est une rumeur de Versailles qui vient de Couloir. Mais en toute objectivité, lui-même, il a essayé de nous corriger par rapport à un mot ou bien par rapport à une phrase.
Mais je l'ai dit,
je lui ai dit. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est le manque de niveau, c'est parce que les élèves sont dehors parce que les enseignants ne sont pas en classe. Nous ne cesserons de le dire. Tout est lié à l'éducation. Si on est mal formé, il va de soi que nous soyons de très mauvais produits. Et je rappelle au président de la République une chose. Ceux qui l'entourent à Koulouba, nous sommes de la même génération qu'on a fait les mêmes écoles. Si nous ne connaissons rien, eux aussi ne connaissent rien.
Mais je reviens encore sur la responsabilité des hommes de médias eux-mêmes à faire de telle sorte que la situation puisse changer. En ce qui concerne le domaine des médias.
Non, pour que la situation puisse changer, ça revient aux organisations fêtières de la presse. Ça revient à ceux qui sont à la tête de ces organisations fêtières. Donc c'est eux qui doivent multiplier les formations, les ateliers, vraiment pour nous mettre à niveau. Parce que si vous laissez un journaliste vivre dans l'autarcie, travailler dans l'autarcie, il ne pourra pas s'améliorer. Il faut que les journalistes s'améliorent quotidiennement pour qu'ils puissent produire des bons articles.
D'accord.
Mais de par bons rapport articles, à ce que le président de la République a dit, moi je ne partage pas son point de vue. Lui, je crois qu'il a enseigné à
l'université. D'accord, on va permettre à Bokoum de réagir sur la question. Bokoum, quel est votre point de vue sur la question? Bokoum.
Oui, moi je pense que vraiment, on doit se remettre en cause. La nouvelle génération, nous devrons se remettre en cause, nous devrons travailler, nous devrons nous former. C'est vrai que beaucoup sont venus comme ça dans la presse, mais il est nécessaire qu'on lise beaucoup, qu'on se forme pour qu'on ne nous reproche pas autre chose encore. Mais le président, ce qu'on a demandé, il a voulu dérouter la chose, on est dernier par rapport à l'aide de la presse. Au lieu de rebondir sur ça, il se cache reste derrière les cadres de quelques-uns. Nul n'est parfait, donc on doit se remettre en cause et il faut se former pour éviter ce genre de dérapage.
D'accord, responsabilité partagée.
Autant la presse doit se remettre en cause et balayer devant sa maison, autant le président de la République aussi doit balayer sa maison. Nous, on a la chance d'écouter certains ministres, de les avoir en interview. On se demande souvent comment le président de la République, qui est tant accroché au bon usage du français, peut s'asseoir à la même table de conseil des ministres avec certains ministres. Ça, franchement,
le niveau
doit être revu à tous les niveaux.
Vont changer et à tous les niveaux, comme vous le dites. Merci. Oumarou Barou Sidibé du groupe Renouveau, Mamoudou Bokoum de la radio Kaoural de Mopti était au téléphone et Badou Escobar du journal Le Carrefour. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Seydou Ndaw, je suis Mouhamadou Touré. À vendredi prochain pour un prochain forum de la presse de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Haloud Mouni.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.